5 minutes pour refaire le monde. Geneviève Fontaine de l'association Evaleco et Philippe Chemla des Alpes-Maritimes questionnent l'économie sociale et solidaire.
Bonjour Geneviève.
Bonjour Philippe.
On va parler des biens communs, sujet intéressant, compliqué, avec beaucoup d'histoire. Peut-être simplement faire un petit retour sur quels sont les préjugés, les idées reçues. Comment on imagine les biens communs quand on pose simplement la question « qu'est-ce que pour vous les biens communs ?»
Oui, dans un café débat qu'on a fait à Grasse, donc qui s'appelait Bien commun, enjeux d'avenir. Et effectivement, dans ces jeux des post-it, la première chose qui sort, c'est que c'est quelque chose utile à tous. C'est une richesse, ce sont des richesses. Alors après, certains citent des exemples, l'eau, l'environnement, la biodiversité, mais parfois des choses auxquelles on ne pense pas directement, comme la paix, comme la monnaie. Est-ce que la monnaie est un bien commun ou pas? Et puis des choses qui nous ramènent plus à notre vie d'aujourd'hui, comme est-ce que les logiciels libres, est-ce que l'Internet, est-ce que l'informatique sont des biens communs? Donc quelque chose qui revient, c'est cette idée...
La connaissance comme un bien commun.
La connaissance comme un bien commun, mais cette idée qui revient, c'est que c'est utile à un très grand nombre et que c'est une richesse.
Si tu veux bien, il y a quand même pas mal d'études hein, qui ont été réalisées, qui structurent un peu notre pensée et puis certaines idées reçues, avec des approches différentes les unes des autres. Peut-être la première, une approche économique.
Oui, donc dans l'approche économique, c'est un économiste, Samuelson, qui nous donne la typologie des biens. Et en fait, il nous dit un bien commun peut se définir par le fait qu'il est non rival et non exclusif. Alors, c'est un petit peu technique.
Oui, non rival et non exclusif, ça demande quelques explications.
Oui, alors un bien non rival, c'est le fait que je vais pouvoir l'utiliser sans empêcher quelqu'un d'autre de l'utiliser en même temps. Donc par exemple, je suis au cinéma, c'est pas parce que je suis au cinéma que d'autres ne peuvent pas y être en même temps. Alors c'est encore plus probant si on prend la télévision ou la radio, j'écoute une émission de radio, eh bien je n'empêche pas en même temps quelqu'un d'autre de l'écouter. Donc là, c'est non rival. Contrairement à un bien classique...
Poisson.
Alors les poissons, c'est plus compliqué parce que le fait que... Donc effectivement, c'est le poisson que je pêche... Effectivement, je ne peux pas, si moi je le pêche, un autre ne peut pas le pêcher. Mais dès qu'on raisonne en termes de bande poissons, etc., ça devient plus compliqué. Mais sur un poisson, effectivement, c'est rival. Mais après, tous les biens que l'on achète tous les jours dans notre société de consommation, la boîte de conserve que je prends dans le supermarché, une fois que je l'ai prise, elle ne peut plus être prise par quelqu'un d'autre, donc elle est rival. Non exclusif, c'est le fait qu'il va être compliqué d'empêcher l'accès à ce bien. Alors, soit il va falloir mettre des barrières techniques, soit il va falloir mettre des barrières légales, mais naturellement, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de quelque chose qui empêche d'accéder à ce bien. Et donc, on ne va pas pouvoir forcer quelqu'un à payer pour pouvoir l'utiliser.
Donc, pas de marché.
Donc, pas de marché possible. Donc, c'est un bien dans lequel la consommation, ma consommation, ne gêne pas celle des autres. Et il va être compliqué d'exclure un utilisateur. Dans ces cas-là, on ne parle pas de consommateur, on parle d'utilisateur. D'exclure un utilisateur sous prétexte qu'il n'a pas payé. Sauf à mettre des choses compliquées. Par exemple, pour exclure les utilisateurs d'une autoroute... il faut mettre tout un système de péage, de voies d'accès, d'empêcher des barrières tout le long pour empêcher les gens de rentrer. Voilà. Donc ça va être techniquement coûteux et compliqué d'empêcher l'accès.
Pour cette définition, on va dire avec une entrée économique, on peut dire que les biens non rivaux et non exclusifs ne peuvent être produits par le marché, car il est impossible de faire payer les bénéficiaires dans l'état actuel des techniques.
Voilà. Là, il y a donc ce qu'on appelle une défaillance du marché. Et donc, il va falloir trouver une autre manière de voir. Mais il y a une vision plus large, qui est plus celle des sociologues, qui est aussi intéressante. C'est celle où on se pose la question de l'utilité sociale. Le bien commun, ça serait une ressource, comme l'eau, mais c'est aussi la qualité des ressources, comme la qualité de l'air, ou la qualité de l'eau, ou des qualités sociétales, comme l'égalité homme-femme dans une société, pour lesquelles la société considère que tous, par principe, devrait avoir la possibilité d'en bénéficier ou d'y accéder. Donc là, on a une définition qui repose pas uniquement sur un bien, mais aussi sur la qualité de ce bien et sur le fait que ça a une utilité sociale pour le plus grand nombre et que donc la société juge qu'il est légitime que chacun puisse y accéder. Ça, c'est une définition qui nous vient de Jean Gadret.
Pour faire vite, on trouve une définition sur Wikipédia, hein, par le mode de gestion. C'est un ensemble de ressources qui relèvent d'une appropriation, d'un usage ou d'une exploitation collectif.
Et pour finir, si on prend toutes ces définitions, qu'on essaye de chercher des points communs, eh bien on peut dire que les biens communs concernent un grand nombre d'acteurs, tant par le côté production que par le côté utilisation. Un grand nombre de personnes les produisent, un grand nombre de personnes les utilisent. Ils génèrent forcément des comportements de rivalité, Et donc, ils sont menacés et il est donc nécessaire d'en prendre soin. Après, la question, c'est comment ?
Merci Geneviève.
Merci Philippe.
C'était 5 minutes pour refaire le monde, présenté par Geneviève Fontaine et Philippe Chemla. Retrouvez toutes les chroniques en podcast sur le site de Radio Éthique.